Ligue 1 à l'étranger, pas seulement vers l'Angleterre, avec leur puissance.
Radio G. 101.5 FM.
Et oui, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les voies de l'écho du mercredi 4 février 2026. Voyager, ce n'est pas seulement aller d'un point A à un point B, c'est aussi une manière de regarder le monde autrement, de ralentir, de prendre le temps, de rencontrer, d'observer et parfois de se redécouvrir soi-même. Nous allons parler de vélo et de voyage aujourd'hui. Et pour m'accompagner dans l'émission du jour, nous retrouvons le chef Hervé Chéneau. Bonjour chef, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, Yves, nous sommes en pleine crise. Ah. La crise de l'œuf. Et pourtant, c'est une merveille nutritionnelle et culinaire. Un ingrédient quasi indispensable dans un garde-manger.
Ah oui, bah merci chef. On retrouve dans ici une dizaine de minutes le temps de nous faire cuire un œuf dur pour nous faire saliver. Et avec nous également Alexis Desjeux. Bonjour Alexis, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Bonjour Yves, bonjour chers auditeurs. Eh bien, nous allons parler de l'ego pour cultiver ou non son assertivité au quotidien.
Alors l'ego, est-ce que c'est la petite brique à laquelle on joue ? On verra ça tout à l'heure. On vous retrouve en deuxième partie d'émission. Et n'oubliez pas, dans le prolongement des voix de l'écho, juste après nous, à 13h, sur l'antenne de Radio G, retrouvez l'émission des métiers de l'ombre, animée par Fabien Bertrand. Depuis 40 ans, un événement célèbre une autre façon de voyager, c'est le voyage à vélo. Un voyage plus humain, plus attentif au territoire, aux paysages et aux personnes qui les habitent. Les 21 et 22 février 2026, le Centre de Congrès accueille la 39e édition du Festival International du Voyage à Vélo. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés, les curieux, les rêveurs et tous ceux qui se demandent s'il est possible de voyager autrement. Avec mon invité, nous allons parler de l'esprit de cet événement, de son ancrage local, de la manière dont on raconte le voyage à vélo et de ce que l'on emporte avec soi après avoir, pourquoi pas, posé le pied à terre. Chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans cette nouvelle émission des Voix de l'Écho.
Les Voix de l'Écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Et donc pour parler du voyage à vélo, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Olivier Baumard, responsable de la communication, des partenaires locaux et de la signalétique du festival. Je crois que c'est tout ça. Bonjour Olivier, bienvenue dans le studio de Radio G.
Bonjour, merci pour votre invitation pour ce grand événement.
Eh ben, merci d'être présent. Alors pour commencer, une question très simple. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu et nous expliquer vraiment donc votre rôle au sein du Festival International du Voyage à Vélo ?
Alors bonjour, donc je m'appelle Olivier Baumard, je suis angevin, enfin je suis né en Anjou, et donc je pratique le voyage à vélo dès que je peux. J'aime beaucoup le vélo, c'est vraiment une passion depuis toujours. Et donc c'est mon rôle dans le festival en fait, c'est une association Cycle Camping International qui existe depuis, comme vous l'avez dit, une quarantaine d'années, et à laquelle je suis adhérent depuis 3 ans. Ce festival avait lieu précédemment en région parisienne, puis au Centre de Congrès du Mans. Et cette année, il est à Angers, puisque le Centre de Congrès du Mans était en travaux. Ce lieu était vraiment très très intéressant, donc ce qui nous a conduit à nous y installer.
D'accord. Et donc votre rôle spécifiquement, c'est ça, donc responsable de la com, partenariat et puis un peu signalétique.
C'est ça. Alors, responsable au niveau local, mais dans un groupe de 25 collègues référents, comme on les appelle. Donc, chacun a sa petite mission sur les approvisionnements, puisqu'il y a de la restauration. Il y en a qui sont sur les hébergements. Donc, pour moi-même, effectivement, mon rôle avec une collègue proche qui est sur Angers également, Maggie Favrelière, on développe la communication locale, les partenariats locaux et les relations avec les partenaires locaux, donc les institutionnels du territoire, les offices du tourisme, etc., etc.
D'accord.
Puis une petite partie signalétique qui sera mise en œuvre, qui est conçue actuellement et qui sera mise en œuvre vraiment le jour de l'installation et à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment.
Ouais, donc du travail aussi avec les équipes techniques de la ville, la police, sûrement aussi.
C'est ça. C'est toutes des missions de convergence en fait pour que le jour J en fait tout soit dans les rails, même si il y a un petit peu d'imprévu, mais on essaie de prévoir cet imprévu.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous impliquer donc il y a 3 ans dans cette association et puis particulièrement dans cet événement?
C'est l'état d'esprit. Hein. Moi, j'ai découvert l'asso via une amie à Douai-la-Fontaine, qui est fan de voyage à vélo, qui voyage depuis les années 70, toujours sur le même vélo au passage. Ça m'était arrivé de partir en proximité dans les Alpes Mancelles, par exemple. Et cette association, en fait, c'est vraiment une association d'entraide entre les personnes. Il y a un super état d'esprit, c'est-à-dire que, on se prend pas le chou quand on voyage avec à la fois, bien sûr, un équipement et puis un but. Mais en fait, il y a aussi plein de débrouilles, plein de petites astuces qui font qu'on peut trouver des points de chute, des hébergements ou des astuces pour fixer, remplir les sacoches, etc., etc. Donc c'est un ensemble en fait. On n'est pas non plus sur le festival dans un événement type marchand. C'est pas une foire quoi. C'est vraiment un festival avec au cœur du festival une sélection de films de voyageurs, des échanges avec des personnes qui ont fait des voyages en proximité ou carrément en mode globe-trotteur. J'ai en mémoire là un couple qui sera au festival mais qui actuellement fait une traversée du nord au sud de tout le continent américain. Claire et Olivier,
oui,
qui ont un podcast. Et enfin, vous voyez, c'est en fait voyager à vélo dans l'état d'esprit, c'est pas forcément justement vouloir se mettre dans les routes ces gens-là. C'est aussi se dire tiens, j'ai un week-end, je prends mon vélo et mes sacoches et je vais aller pouvoir passer un week-end simple ou avec ma tante ou avoir un hébergement, trouver un hébergement en proximité.
D'accord. Et selon vous, ça fait quoi? Enfin, pourquoi ça dure depuis 39 ans ce festival?
Parce que c'est une affaire de passion, de passionnés. Tous les gens comme François Coponnet, le président, par exemple, c'est des gens qui sont. Je prends cet exemple-là, mais ils sont très nombreux, qui sont vraiment passionnés de vélo depuis toujours, qui sont aussi des personnes ressources sur des notions. Enfin, justement, je crois que François intervient justement sur la partie biodiversité, des conseils pour faire un premier voyage à vélo, etc., etc. Donc, c'est vraiment une histoire de passionnés, et c'est pour ça que ça dure depuis longtemps.
Ouais.
On est un peu sorti. Au départ, c'était un ovni, un objet vélocipédique non identifié. mais c'était vraiment un ovni parce que les personnes qui faisaient du voyage à vélo, c'était un peu marginal. Et puis il y avait l'esprit peut-être un peu aventurier qu'on a toujours. Mais c'est vrai qu'il y a une démocratisation autour du voyage à vélo. Et aujourd'hui, en fait, on y va en solo, on y va en couple, on y va en famille, mais avec des enfants tout jeunes. On part pour quelques jours, plusieurs mois ou quelques années. Et vraiment, en fait, on retrouve toutes ces notions et toutes ces dimensions du voyage à vélo à travers ce festival.
Et est-ce que vous diriez que c'est plutôt un festival militant, inspirant, contemplatif ou un peu mélange de tout ça?
Il y a du militantisme bien sûr parce que en fait là on est vraiment sur le voyage autrement, ce qui est tendance le slow voyage en fait, parce qu'on voyage à son rythme et on se construit son voyage, on ajuste parce que comme je vous disais il y a de l'imprévu sur le festival, mais il y a toujours de l'imprévu dans le voyage et c'est ce qui donne sa richesse. Donc ça c'est l'aspect militantisme. J'ai envie de de sortir en fait des rails de ce qu'on peut me proposer comme comme voyage. On est son propre acteur de son voyage. Et oui, et aussi à côté de ça, aujourd'hui, il y a une on s'inscrit dans une tendance en fait générale autour de la démocratisation du voyage à vélo.
Ouais.
Quand on voit tous les circuits, tous les grands itinéraires, hein, Angers pour ça c'est très pertinent puisque on se retrouve au carrefour de plusieurs grands itinéraires, bien sûr la Loire à vélo, mais la vélo francette, la vallée du Loire à vélo, enfin l'Anjou au sens large, on est vraiment un territoire qui est bien adapté au vélo.
Ouais.
Il y a possibilité de faire des grands itinéraires ou de parcourir des boucles en partant d'un point A, Angers ou Saumur, par exemple. Et puis de rayonner en Marguerite, quoi.
Oui, c'est hyper. C'est vrai qu'on est un territoire à fond vélo, hein, même la ville, hein, essaye en tout cas de faire un maximum pour les vélos. En tout cas, il y a un très très grand programme qui est assez riche. On va en reparler juste après. Mais d'abord, je vous propose de faire un petit jeu dans l'émission. Allez, c'est parti. Alors Olivier, pour ce premier jeu, on va faire la boussole un peu de l'événement. 5 questions pour comprendre ce qu'est le festival. Est-ce que vous êtes prêt ?
J'espère avoir les réponses.
C'est pas grave, si il en manque. Quelle est la priorité absolue du festival qui guide vraiment toutes les décisions ?
Oh ben, le cœur du festival, hein, j'en parlais, c'est les séances, c'est-à-dire une séance, c'est des films amateurs hein, pour la plupart. Et en fait, c'est des personnes aujourd'hui, l'utilisation de moyens multimédia pour faire vivre un voyage, ils sont diverses. Donc là, on a rassemblé plein de films, de petits ou longs films. Et ensuite, il y a un témoignage avec les auteurs de ce voyage. Et en fait, ça, c'est vraiment le cœur du festival.
Ok, vraiment, les échanges.
Les échanges, les films et les échanges.
Ok. Quand vous devez faire un choix difficile dans l'organisation, qu'est-ce qui guide la décision finale ?
Oh, je vous parlais des 25 référents. En fait, on s'est réunis physiquement 2 fois à Angers et on se réunit souvent en visio. Et en fait, c'est le collectif, en fait, qui choisit. Il n'y a pas d'intérêt. Enfin, bien sûr, il faut composer avec les possibilités techniques parce que là, des fois, on a été un peu contraint avec l'espace technique. Mais sinon, c'est effectivement le collectif.
Ok. Est-ce que vous refusez de sacrifier des choses pour simplifier l'organisation ? Il y a des choses que vous vouliez faire et que finalement vous avez été obligé de sacrifier. Là,
ouais,
vous parlez de la technique.
Ouais, on est sur des aspects techniques. C'est vrai que on aurait aimé proposer peut-être un peu plus d'espace. Après, on a aussi un budget qui est contraint, donc parce qu'on est autofinancé. C'est une asso qui existe depuis 40 ans et ce festival, il est autofinancé. Donc, on a un budget quand même à gérer et d'être, on va dire, un euphémisme, d'être dans le moins de déficit possible.
Oui. À partir de quels critères estimez-vous que le festival sera réussi ?
Bien sûr, la fréquentation. Hein. On accueille 3500 à 4000 personnes. Donc la fréquentation. Et puis, comme là, c'est aussi le fruit d'une asso. C'est en fait comment les gens se saisissent du sujet et viennent s'adresser à l'asso pour la suite, parce qu'ils ont un projet ou parce qu'en fait ils ont découvert l'asso, ou alors ils s'inscrivent dans le festival. Par exemple, il y a 160 bénévoles qui sont mobilisés qu'on a recrutés. Il y a des fois des gens qui viennent, ils trouvent l'événement super et spontanément, au moment de l'événement, ils viennent nous proposer un coup de main.
D'accord.
Donc ça, c'est aussi un critère, je dirais pas quantitatif, mais qualitatif sur l'engouement que procure ce festival.
Et j'ai une toute dernière question. Si le festival devait laisser une seule trace chez les visiteurs, quelle serait-elle ?
Il y a une antenne locale CCI, c'est le camping international. Ça serait justement que il y avait une sortie par exemple dimanche dernier, ce serait que on vienne de plus en plus nombreux à ces sorties.
Okay.
C'est-à-dire c'est la conversion pour avoir plus de participants qui soient membres de l'asso ou pas puisque c'est ouvert à tous, mais que ces activités perdurent d'une manière un peu plus dense que ce qu'on a actuellement.
D'accord, super. Merci beaucoup Olivier pour vos réponses.
Les voix de l'écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Alors pour les cyclistes, hein, les œufs accompagnés de pain grillé constituent un repas de récupération idéal après une longue sortie. En tout cas, les œufs, il en est question dans la chronique à venir et j'espère que notre chef ne va pas marcher sur des œufs en nous parlant de cet ingrédient indispensable en cuisine ou tout simplement d'aller nous demander de nous faire cuire un œuf, quoique... Va-t-il mettre tous ses œufs dans le même panier dans son intervention ? C'est le moment d'écouter la chronique du chef Hervé Chénaud.
De la fourche à la fourchette. Une chronique du chef Hervé Chénaud.
Eh bien, écoutez, mon cher Yves, l'œuf est très important.
Voilà, il nous refait Jacques Chirac qui ne mange pas des pommes, mais des œufs cette fois-ci.
Il est toujours de ce monde. Les œufs sont les plus polyvalents en cuisine. Capables de lier, enrober, clarifier, épaissir et aérer la nourriture, ils doivent leur incroyable pouvoir à la combinaison de protéines, de gras et d'émulsifiants, appelés lécithines. La lécithine aide le gras à se mélanger à l'eau et cela fait du jaune d'œuf un ingrédient de liaison essentiel pour une mayonnaise. Les blancs d'œufs sont principalement constitués d'eau avec quelques protéines. Lorsqu'ils sont vigoureusement battus, leurs protéines se déstructurent et forment une structure aérienne que l'on peut associer à du sucre pour réaliser des meringues ou incorporer au gâteau pour en augmenter le volume. Ajouter des œufs entiers apporte structure, humidité et saveur. Étant conçus pour subvenir aux besoins d'un poussin, les œufs sont riches en nutriments et en acides aminés. Rien à voir avec vous, Yves, que l'on appelait poussin quand vous étiez petit. La teneur nutritive d'un œuf est quasi parfaite pour l'homme. Reconnaître les œufs. La structure des œufs d'oiseaux reste la même d'une espèce à l'autre. Le jaune gras est toujours suspendu dans un blanc à queue, le tout enfermé dans une coquille dure. Cependant, le ratio entre protéines et matières grasses varie et a un impact sur la saveur de l'œuf. La taille de l'œuf et la porosité de sa coquille varient aussi d'une espèce à l'autre. Pour cette raison, chaque œuf aura une utilisation différente en cuisine. Voici un récapitulatif des principes variétés d'œufs. C'est très dur ce matin. Les œufs, vous savez, hein, ça, quand c'est la coquille est dure, c'est pas facile. Œuf d'oie, le plus gros utilisé en cuisine et très riche en matières grasses. Œuf de canne, sa coquille très poreuse absorbe les saveurs qui l'entourent. L'œuf de poule, c'est de loin le plus utilisé des œufs et rentre dans de nombreuses préparations culinaires. Et puis, les œufs de caille, ce tout petit œuf moucheté à un blanc très ferme et une coquille dure, très difficile à écaler. Je vois votre tête, Yves, dubitative. Oui. Écaler, c'est retirer la coquille, par exemple, d'un œuf dur en tapotant de toutes parts pour briser la coquille, sans briser l'œuf, et un petit secret, écaler dans l'eau, plus facile. Mythe ou réalité? Les œufs augmentent le taux de cholestérol. Ah oui, un sujet brûlant. Eh bien, la réalité des œufs sont riches en cholestérol, mais manger des aliments riches en cholestérol n'est pas si risqué qu'on le croit. Des taux élevés en mauvais cholestérol dans le sang peuvent causer de graves problèmes de santé. Mais ce sont des aliments contenant beaucoup de graisses saturées, viande grasse, crème, beurre, fromage, qui entraînent le corps à surproduire du cholestérol. Le cholestérol alimentaire, lui, a un faible impact. Les jaunes recèlent également une substance qui empêche le cholestérol qu'ils contiennent d'être absorbé. Seuls ceux qui ont une prédisposition génétique à l'hypercholestérolémie doivent limiter leur consommation d'œufs. Savez-vous qui de l'œuf ou de la poule était avant?
Ça, ah, vous le savez pas. C'est toujours, hein, une très bonne question.
Ah bah oui. Ce qu'on sait par contre, en un an, une poule pondeuse produit 8 fois son poids en œufs, sachant qu'un œuf de poule pèse 50 grammes. Je vous laisse faire le calcul. Plusieurs méthodes de cuisson d'un œuf. Attention, cela, je suis très exigeant, Yves. L'œuf coq, c'est 3 minutes. Œuf mollet, 5 minutes. Œuf dur, 10 minutes. Pour une bonne omelette, attention, elle sera servie blanche, roulée et baveuse. Pour un œuf brouillé, c'est-à-dire des œufs fâchés entre eux. Elle est bonne, hein? Je travaille sur feu doux. Il me faut 5 à 10 minutes. Question pour l'invité. Attention. Qu'est-ce qu'un œuf parfait, Olivier?
Ah.
C'est quelqu'un comme vous, en fait. Je veux dire, non, c'est pas ça.
Non,
c'est
pas... non, non.
D'accord.
N'y est pas du tout. Alors, un œuf parfait.
Oui.
C'est un œuf. Enfin, c'est un mode de cuisson, mais
oui.
J'avoue que je ne le connais pas.
Alors, c'est très, très utilisé par les chefs actuellement. Ils travaillent beaucoup là-dessus. C'est une cuisson à 64 degrés pendant 35 minutes. Blanc et jaune, juste coagulé.
C'est
et c'est
ça,
incroyable.
En fait. C'est pour ça, en fait, en voyage à vélo, on ne maîtrise pas aussi bien la température que
le chef. Je suis bien d'accord. Oui, oui. Mais je vous donnerai le tableau.
Merci.
Pour poursuivre la cuisson.
Merci.
Merci beaucoup, Hervé, pour cette chronique. Et votre crâne d'œuf aussi, qui est toujours magnifique.
Ah, Yves. Comme le vôtre, d'ailleurs.
Exactement.
Les voix de l'écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Alors Olivier, je voulais revenir donc sur ce programme qui est foisonnant. Donc c'est deux jours de festival, donc on rappelle le samedi 21 février et le dimanche 22 février. Mais il y a également une avant-première au cinéma Les 400 coups le lundi 16 février à 20h. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ces temps forts sur lesquels il faut absolument aller?
Ah ben chacun des événements de ce festival est un temps fort. Hein. Je rebondis sur la petite chronique sur les œufs, par exemple, dans un des salons, le salon Cabernet, le samedi à 12h, il y a un atelier cuisiné en plein air, dans lequel on parlera probablement des œufs, pardon, parce que c'est effectivement une nourriture qui est très intéressante, nutritivement parlant. Voilà, le cœur du festival, c'est les séances de ciné. Vous avez parlé de cette avant-première le lundi 16 février au 400 coups, autour d'un film de Manon Brulard, qui est une jeune femme belge, et donc qui a fait un voyage de la Belgique jusqu'au Japon, et en fait qui fait témoigner les femmes, parce qu'il y a aussi de l'engagement dans son film, qui fait témoigner des femmes de toute nationalité, de toute condition sociale, sur en fait ce que leur apporte le fait de faire du vélo en termes d'émancipation et de vraiment prendre leur place dans la société. Donc vous voyez, en fait, il y a à la fois le voyage qui est un prétexte là, mais également quelque chose de très engageant en fait dans la démarche de faire son film. Donc c'est un film qui date de mémoire de 2021, juste après l'épisode Covid-19. Et donc malheureusement Manon sera pas présente, mais il y aura ensuite des échanges avec certains membres de l'association Cyclo Voyageurs. Donc là le public est effectivement invité à venir pour justement découvrir, pour ceux qui ne connaîtraient pas le monde du voyage à vélo, et puis pour échanger aussi sur ce thème de le vélo dans une autre dimension que uniquement le voyage. Voilà, et puis sur les temps forts, en fait, vous voyez qu'il y a vraiment toutes les écoles, puisque par exemple, il y a un atelier samedi après-midi à 14h qui nous apprend à vraiment bien lire et comprendre une carte routière. Et parallèlement, à 15h30, il y a un autre atelier sur les outils numériques au service du voyage à vélo. Donc là, c'est ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on va apprendre à utiliser des plateformes ou des logiciels pour se créer son itinéraire. Ensuite, quand on va faire un carnet de voyage, on va avoir des outils pour faire son carnet de voyage, mais également pour des plateformes pour trouver des hébergements, etc., etc. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le numérique facilite aussi un certain nombre de choses. Si on veut bien se l'approprier, puisqu'il y a justement des personnes qui souhaitent être complètement dans un univers entre eux-mêmes et qui ne voyagent qu'avec des cartes papier et au gré des rencontres qu'ils font.
Oui, c'est vrai que c'est un festival avec donc beaucoup de choses en termes donc d'ateliers pratico-pratiques, donc effectivement les diffusions des films. Il y a aussi des stands, c'est ça?
C'est ça. Il y a à peu près une petite centaine d'exposants, donc dans lesquels on retrouve des fabricants de matériel. Alors ça va être des constructeurs de vélos, mais également de sacoches ou de nutrition, hein, des mets, soit en lyophilisé ou autre. Et en fait, dans l'état d'esprit, nous, on n'invite pas les grands fabricants de sacoches. En fait, on va faire plutôt une place, ni les grands cadristes, mais on va faire une place à vraiment plutôt des artisans ou des exposants qui ont une dimension un petit peu industrielle parce qu'ils sont connus à l'échelle du territoire, comme Histoire Bike par exemple, qui est un fabricant de vélos à Clermont-Ferrand, ou Coca, qui est un cadriste émérite, qui est à la Poissonnière, hein, donc savoir qu'il y a des fabricants qui sont locaux. Et donc justement, ouais, on est plutôt tourné vers cette économie qui est une économie discrète, mais qui répond vraiment bien aux problématiques du voyage à vélo. Les fabricants de sacoches, par exemple, vous allez avoir des personnes qui ont des sacoches qui sont fabriquées à partir de déchets, si on peut dire, puisque c'est des déchets, des bâches recyclées.
D'accord.
Et voilà. Et qui rendent un produit tout à fait performant. Fabricant okay. de tentes également, je pense à ces exemples-là en particulier.
Très bien. Au niveau de l'accessibilité tarifaire, donc il y a un coût d'entrée pour les films ou c'est aussi pour accéder au stand ou
non,
comment ça fonctionne?
L'accès au centre de congrès est gratuit tout le week-end. Hein, les horaires d'ouverture, donc c'est pour le samedi, c'est ouvert de 10h à 18h pour les stands. Le festival, il y a une séance qui dure jusqu'à 22h. Et puis le dimanche, c'est ouvert de 9h30 à 17h. Et donc l'accès au festival est gratuit. En fait, il y a simplement les séances qui sont à prix modique, hein, c'est 6€ pour une séance. Donc là, vous avez deux ou trois films, sauf la séance du samedi soir sur laquelle on pourra peut-être revenir. Mais sinon, vous pouvez déambuler. En plus, c'est sympa, il y a une bonne ambiance. Vous rencontrez forcément beaucoup de gens qui sont passionnés de voyage à vélo. Parmi les exposants aussi, il y a des auteurs d'ouvrages. Donc, quand je dis ouvrage, c'est au sens large parce qu'il y a des livres photos, des albums photos. Il y a des ouvrages de récits, il y a des ouvrages un peu de fiction. Et puis, il y a de la bande dessinée. J'ai en mémoire... Sortie des rails, par exemple, où là, un voyageur à vélo qui habite Mâcon fait une fois par semaine l'aller-retour à Paris en TGV. Et puis un jour, il se dit, je vais essayer d'aller rencontrer tout ce que je vois chaque semaine par la fenêtre du TGV. Et donc, il embarque un pote pour aller faire ce trajet à vélo et ça donne ce récit qui est assez sympa.
D'accord. On va reparler de tout ça tout à l'heure. En tout cas, je vous propose de faire une petite pause musicale à présent dans l'émission. Nous allons écouter Ainsi soit-il de Louis Chédid. On reparle de ce choix musical avec mon invité Olivier Baumard juste après. Bonne écoute sur Radio G.
Moteur. Se déroule dans ta ville, fut d'hélicoptère ou du haut d'un building. Et puis la caméra zoom avant jusqu'à ton appartement. Doudoudoudou, si soit-il. Yeah, tel est le nom du film, comme il est dit dans le scénario. Au plan de toi dans ton berceau, comme il est précisé dans le script, lumière tamisée, flou artistique. Tout, ainsi soit-il. Tel est le nom du film. Sur la bande-son, une cloche qui sonne, fondu enchaîné sur la cour d'une école. Un lièvre, une tortue, trois mousquetaires et plus tard les fleurs du mal de Charles Baudelaire. Doudoudoudou, ainsi soit-il. Yeah, tel est le nom du film. Autre séquence, autre scène, chant contre chant, gros plan sur elle. T'as raison, y'a que l'amour qui vaille la peine. Demande à l'éclairagiste qui il était. Doudoudoudou, ainsi soit-il. Oh, oh, oh. Tel est le nom du film. Flashback, tu regardes en arrière toutes les choses que t'as pas pu faire. Tu voudrais disparaître dans le rétroviseur, mais personne n'a jamais arrêté le projecteur. Ainsi soit-il. Yeah, yeah, tel est le nom du film.
rafling sur un corbillard qui passe, sans faire de bruit, sans laisser de traces. Un bébé qui pleure dans la maison d'en face. Quand quelqu'un s'en va, un autre prend sa place. Ainsi soit-il. Tel est le nom du film. Alors la caméra zoom arrière et tu remontes dans l'hélicoptère.
Les voix de l'écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Vous êtes toujours en direct sur Radio G à l'écoute de l'émission Les voix de l'écho. Je suis en compagnie des... On a du mal, monsieur Chesneau, aujourd'hui, hein, à
oui,
dire des choses. Hein. Ah là 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 là. Je suis en compagnie de mon invité Olivier Bonnemare pour le Festival international du voyage à vélo qui se déroule du 21 au 20 et 22 février 2026 au centre de congrès d'Angers. Nous venons d'écouter Ainsi soit-il de Louis Chédid. Olivier, pourquoi avoir choisi ce titre musical?
Bah d'abord parce que c'est un membre de la famille Chédid, hein, d'André Chédid, à Louis Chédid, à Mathieu Chédid, à Billy Chédid et toutes les tous les frères et sœurs de la fratrie Chédid. Enfin c'est des gens que j'admire et plus particulièrement ce titre-là parce que c'est un titre ancien de Louis Chédid qui évoque un parcours de vie avec du mouvement, avec enfin qui est ramené aussi à des plans séquences et avec un déroulé qui va crescendo. On l'entend aussi musicalement puisque en fait, moi je joue un peu de guitare et là on monte vraiment la même position d'accord qui fait grimper et puis à un moment ça retombe quoi. Donc voilà, dans l'idée c'est d'essayer de faire des choses avant que ça retombe. Donc c'est quelque chose qui me fait bouger. Voilà.
D'accord.
J'ai pas les deux pieds dans le même sabot, j'aime bien les projets et j'essaie de me projeter aussi.
Très bien.
Sur l'avenir.
Parfait, très bon choix en tout cas de musique.
Merci.
Alexis, vous aviez une question à poser à notre invité encore par rapport au programme, bien évidemment, du Festival international du voyage à vélo.
Oui, je me demandais ce que c'était ce salon Giffard des rencontres cyclopays.
Cyclopays, et bien là, en fait, par secteur géographique. C'est des voyageurs qui témoignent sur une région, par exemple, les rencontres cyclopays, par exemple, du mois de samedi, seront consacrées aux États-Unis et l'Amérique centrale. Il y aura d'autres voyageurs qui vont venir témoigner sur l'Afrique, la côte ouest de l'Afrique, ensuite l'Allemagne, ensuite le Portugal, le Royaume-Uni. Donc ça, c'est toujours sympa d'écouter des gens parler de leur voyage et puis surtout de pouvoir se échanger, avoir des idées de parcours, qu'est-ce qu'il faut faire et aussi là où il ne faut pas aller parce qu'il y a des endroits où le vélo est pas vraiment le bienvenu. Quoi. Donc c'est des destinations, là celles que je viens de vous citer, elles sont un peu exotiques, tout au moins elles sont pas tout à fait en proximité, mais il y a par exemple le dimanche un témoignage sur la vélo française. Pour ceux qui connaissent pas la vélo française, en fait, elle part de Ouistreham et elle arrive à La Rochelle. Donc, elle passe à Angers, à Saumur. C'est vraiment un chouette itinéraire assez varié et très accessible à toute la famille.
Ouais. Vous parliez là à l'instant donc justement des lieux où on ne peut pas aller à vélo. Hein, dans l'actualité très récente, hein, on a eu un voyageur qui s'était fait arrêter à la frontière. C'est russe, hein, si je dis pas de bêtises.
C'est ça.
Vous mettez aussi en avant ces destinations qui sont interdites, on va dire.
Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a comment dire. Il y a des destinations qui sont assez délicates. C'est vrai qu'on alerte sur ce sujet. Il y a un atelier le samedi à 15h45, visa, frontières et géopolitique, justement, dans lequel il y a une approche sur les démarches administratives, puisque en fait, dans l'espace européen, on peut voyager correctement, mais ailleurs dans le monde, c'est pas toujours le cas. Donc, les risques sont effectivement évoqués. Sachant quand on prépare un voyage à vélo, enfin moi c'est mon cas actuellement et j'ai énormément de gens qui me disent attention, à tel endroit tu vas avoir telle difficulté, mais pas forcément en connaissance de cause. Ou là, tu vas te faire dépouiller si tu passes là, c'est clair que. Donc, justement, il y a une part des choses à faire et là c'est intéressant de rencontrer d'autres personnes qui sont déjà allées dans ces secteurs. Actuellement, moi je suis un voyageur qui est en Turquie, qui est dans le sud de la Turquie, enfin qui vient de repasser en Grèce, quoi. Et c'est un pays en fait où les habitants sont vraiment très très accueillants. Mmh. C'est vrai qu'il y a un terrain politique qui est délicat. Je parle aussi de une séance, la séance numéro 5 là du samedi 21 février.
Justement, j'allais vous poser la question.
Voilà, en fait, qui est une séance un peu particulière puisque en fait il y aura qu'un film qui sera projeté, qui s'appelle Ride the Line et qui en fait retrace le parcours de deux cyclistes sur le front ukrainien en 2022. Et en fait, ces deux cyclistes qui sont ukrainiens. Font témoigner des personnes justement sur leur vécu au quotidien de la guerre d'Ukraine. Et donc c'est un film qui est assez émouvant et on aura l'opportunité également, il devrait être en duplex, en visio, dans la grande salle de l'auditorium après la séance avec le public.
D'accord.
Donc on n'est pas tout à fait dans le voyage parce que c'est vraiment vraiment un parcours qui se sont définis pour parcourir cette ligne de front et en fait ils voyagent au gré de là où ils peuvent aller pour recueillir les témoignages et les besoins de solidarité des Ukrainiens. Donc cette séance il y a une association ukrainienne avec qui on est partenaire pour cette séance voilà qui sera présente également pendant le festival.
Ok, donc le samedi 21 février à 20h, donc au centre de congrès. Olivier, je vous propose de faire un nouveau jeu dans l'émission. Alors, pour ce deuxième jeu, nous allons faire un vrai-faux express. Vous devez simplement répondre par vrai ou faux. D'accord ?
Let's go.
Allez, c'est parti. Voyager à vélo, c'est avant tout une affaire de performance physique.
Faux.
Le voyage à vélo est réservé aux personnes très sportives et entraînées.
Absolument faux.
On peut voyager à vélo sans partir loin de chez soi.
Vrai.
Le vélo permet de découvrir un territoire autrement qu'en voiture ou en train.
Ben oui, vrai.
Voyager à vélo coûte forcément moins cher qu'un autre type de voyage.
Vrai.
Le voyage à vélo favorise les rencontres humaines.
Absolument vrai.
Et on peut voyager à vélo à tout âge.
Oui, c'est vrai.
Eh oui. Merci beaucoup, Olivier, pour ces affirmations. Ah, pardon, je vous ai coupé votre micro. Vous avez dit...
Non, je dis, il a tout bon, c'est chouette.
Ouais, c'est top.
Les voix de l'écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Alors on dit parfois que les cyclistes, notamment professionnels, peuvent avoir un peu un gros ego, un ego surdimensionné. En tout cas, l'ego et sa place dans nos relations humaines, c'est justement le thème de la chronique d'Alexis Desjeux.
Mieux vivre ensemble avec assertivité, une chronique d'Alexis Desjeux.
Bonjour chers auditeurs, quel que soit votre genre, obédience et croyance toute personnelle. Et oui, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'ego, E-G-O, pour cultiver ou non son assertivité au quotidien. Qu'est-ce que j'entends par l'ego ? C'est en fait la conscience et la représentation que j'ai de moi-même en tant que personne. C'est le moi des psychanalystes. Oui, mais ce moi, il se construit comment ? En quoi est-il un allié ou toxique pour nos relations à l'autre ? Comment prendre de la hauteur avec son ego ? On va voir tout cela dans plusieurs chroniques, hein, parce que c'est un vaste sujet.
Alors Alexis, quand vous parlez d'ego, vous parlez de quelque chose de négatif, ou est-ce qu'il y a aussi de bonnes choses dans ce moi ?
Ben en fait, Yves et chers auditeurs, auditrices, et quel que soit votre genre, l'ego n'est ni bon ni mauvais en soi, c'est comme un outil. On imagine un enfant de 5 ans qui apprend à dire non quand on lui prend son jouet. Là, c'est son ego qui se construit, qui dit « j'existe, j'ai mes besoins et je les exprime ». C'est plutôt sain.
En fait, le problème, c'est quand cet ego devient surdimensionné, comme vous le disiez, je ne sais pas si les cyclistes sont concernés, mais ou au contraire, complètement écrasé. Prenons un exemple très concret, Yves. Le jeune Thomas de 7 ans, il ramène un dessin à l'école, de l'école, et sa mère, en fait, elle est débordée, elle lui dit à peine « c'est bien » sans même le regarder. Elle, ça se reproduit une fois, deux fois, trois fois. Bref, ce scénario se reproduit plusieurs fois dans la jeune vie de ce Thomas. Bah, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Thomas? Son ego enregistre « ce que je fais n'a pas de valeur, je ne suis pas intéressant ». Et ben 30 ans plus tard, quand Thomas est devenu manager et devant son équipe quand il a une idée innovante, ben il la garde pour lui. Pourquoi? Parce que son ego d'enfant lui murmure encore de toute façon, ce que tu penses n'intéresse personne. Vous voyez le lien, Yves?
Donc si je comprends bien, l'ego on le construit par son vécu, ses expériences, son histoire personnelle et il influence donc l'adulte que l'on devient. C'est bien ça, hein?
Exactement, Yves. C'est là que la philosophie Ubuntu d'Afrique prend tout son sens. Elle nous dit « Personne n'est né dans la forêt. Tout le monde est né dans une famille. Notre ego se construit dans le regard des autres, principalement nos parents au départ, mais aussi l'école et les réseaux sociaux qu'on débute très 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 tôt. » Imaginez maintenant l'inverse, la petite Sarah, 6 ans, chaque fois qu'elle pleure ou qu'elle exprime une frustration, on lui dit « Mais non, t'as pas mal, c'est rien, allez, t'es forte. » Ben en fait, on invalide ses émotions systématiquement, son ego apprend quoi? Que ses ressentis ne sont pas légitimes, qu'elle doit se taire. Alors à 35 ans, quand Sarah est dans une réunion de travail, son collègue Marc lui coupe la parole pour la troisième fois. Elle sent la colère monter. Mais... elle sourit poliment, elle ravale sa rancœur, elle se dit « bon, c'est pas grave, je suis peut-être trop susceptible ». Voilà comment un ego écrasé dans l'enfance empêche l'assertivité à l'âge adulte. Puis vous avez le cas inverse, le petit Lucas, enfant unique, survalorisé en permanence. Mon fils est plus intelligent, le plus beau, le meilleur. Alors à l'adolescence, au moindre échec scolaire, c'est le drame. Son ego surdimensionné ne supporte pas la contradiction. Alors plus tard, dans son entreprise, Lucas devient ce collègue insupportable qui ne peut pas recevoir le moindre feedback sans se braquer. Son manager lui suggère d'améliorer un dossier. Lucas le prend comme une attaque personnelle. Son ego hurle « Comment oses-tu remettre en question mon travail ?» Alors c'est là qu'il faut peut-être faire appel à la sagesse de Lao Tzu qui nous éclaire magnifiquement sur ce sujet. « Celui qui dirige les autres est peut-être puissant, mais celui qui sait maîtriser lui-même a encore plus de pouvoir. Maîtriser son ego, c'est comprendre qu'on n'est ni le centre du monde, ni insignifiant. C'est trouver un juste milieu. Dans ma prochaine chronique, on verra comment repérer les signes d'un ego déséquilibré au quotidien ou comment ça impacte concrètement notre assertivité. D'ici là, essayez d'observer quelques petites choses autour de vous. Quand quelqu'un vous fait une remarque, quelle est votre première réaction? Vous défendre? Vous effondrer? Ou simplement écouter avec bienveillance pour trouver un chemin commun. Alors prenez soin de vous et de vos proches, faites les choses avec plaisir, audace et envie, si ça vous branche. Belle journée. Et à notre invité Olivier, dans ses réunions avec vos 25 collègues pour préparer ce 39e festival du voyage à vélo le 21 et 22 février 2026, est-ce que certaines remarques dans les réunions vous ont amené à vous défendre, à vous effondrer ou à écouter?
Alors... C'est une question effectivement qui s'est posée. On est une nouvelle équipe parce qu'elle est renouvelée tous les ans. Et c'est vrai qu'au départ, on s'est donné un cadre pour essayer de fonctionner dans le respect, la bienveillance et de faire en sorte que les idées des personnes qui sont là depuis longtemps nourrissent effectivement la construction du festival, mais qu'il puisse y avoir des nouveautés, je pense par exemple au partenariat avec l'université d'Angers et l'ESTOA. C'est la première fois qu'on a un partenariat en local comme ça avec une université. Et c'est quelque chose qui a été amené parce que sur le territoire, il y avait des affinités et des apports de personnes.
Donc chacun a mis son ego de côté.
C'est ça, exactement. Je rebondis sur votre définition de l'ego EGO pour... vous faire connaître un dispositif qui s'appelle Vélo Ego, qui s'écrit E-G-A-U-X, de manière en fait à rendre accessible le vélo à toutes et à tous. Et je crois même qu'en regardant sur le site de Vélo Ego, vous allez retrouver des partenaires de ce dispositif sur la région d'Angers.
très intéressant. Merci pour ce partage, Olivier, et merci beaucoup, Alexis, pour cette première chronique d'une encore une longue série de ce que j'ai pu comprendre sur l'ego.
Les voix de l'écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Alors, Olivier, on va continuer encore, bien évidemment, à parler du Festival International du Voyage à Vélo. Est-ce que vous faites des choses pour les enfants également? Parce que vous parlez tout à l'heure de la vélo française en famille, donc j'imagine qu'il y a des choses aussi pour les enfants.
Alors, il y a un festival des enfants le samedi 21 février là à la salle de l'Atrium. Donc là, c'est des échanges entre enfants, puisque certains voyageurs en famille donc seront présents. Il y a aussi des auteurs qui ont des livres qui sont consacrés aux enfants. Et l'idée, c'est qu'au même titre que les adultes échangent entre eux sur les voyages, ben là, on laisse la parole aux enfants pour qu'ils témoignent entre eux de la manière dont ils ont vécu ou dont ils ont envie encore de voyager avec leurs parents. Il y a également, donc j'ai parlé des auteurs, il y a une fresque collaborative qui sera réalisée en fait à partir d'anecdotes. Chacun peut venir témoigner d'une anecdote ou d'un ressenti d'un voyage à vélo, et là il y a un graphiste qui va traduire cette anecdote à travers un visuel, et à la fin du week-end ça va nous permettre d'avoir un témoignage visuel de ce festival à travers cette fresque.
D'accord. Est-ce que ce type de festival, justement, est intéressant pour rendre plus attractif le voyage à vélo à des non-initiés, on va dire?
Oui, c'est un peu l'objectif. C'est vrai que il y a des habitués qui viennent tous les ans. Enfin, aujourd'hui, il y a des gens qui viennent de partout en France, même d'Europe. Donc ça, c'est des personnes qui ont sur leur agenda le rendez-vous avec le festival de l'association Cyclocamping. Et puis, dans la mesure où Angers, c'est une terre carrefour pour le voyage à vélo, qui a une belle infrastructure pour le voyage à vélo, ben, on espère aussi capter des gens qui, en voyant les affiches, en entendant sur vos ondes parler du voyage à vélo, se disent, bah, tiens, ça m'intéresse, mais juste par curiosité, et puis de fil en aiguille, peut-être qu'ils vont se projeter dans une démarche, finalement c'est accessible, ça nécessite quoi, et ça va être différent, et ça peut correspondre à une envie qui reste pour l'instant masquée en moi, mais que ça va permettre de révéler.
Ouais,
donc c'est vrai que ça peut être un objectif aussi du festival.
De, même de si faire naître des envies de départ finalement à vélo. Est-ce que vous pensez que l'année prochaine, ça sera toujours sur Angers ou pas du tout?
On espère maintenir le festival à Angers. Hein. C'est vrai que là, c'est une première année. Il y a eu deux années précédentes au Mans. Il y avait d'autres villes candidates aussi à la place d'Angers. Donc en jouant des coudes, on a réussi à s'imposer, hein, sans forcément avoir un ego surdimensionné, parce que ça pèse lourd dans les sacoches, les égos. Mais voilà, ouais. Enfin, si tout se déroule bien, il n'y a pas de raison. Puis si on a la confiance aussi des partenaires, parce que c'est vrai que les collectivités sont soutenantes, autant Destination Angers, la ville et l'agglo que le département. Donc, bah ouais. On espère bien que ça se maintienne à Angers.
Effectivement, en tout cas, voyager à vélo, ce n'est finalement pas seulement une question de kilomètres parcourus. C'est une manière de se relier aux autres, au territoire, au temps et peut-être aussi à soi-même. À travers cette 39e édition du Festival International du Voyage à Vélo, on comprend que cet événement n'est pas qu'un rendez-vous pour passionnés, mais un espace de récits, de rencontres et de transmissions, un lieu où l'on vient autant pour rêver que pour s'inspirer, réfléchir ou oser peut-être son propre départ. Merci beaucoup, Olivier Beaumart.
Merci à vous.
Venu nous parler des coulisses du festival et de son programme. Rendez-vous donc les 21 et 22 février 2026 au Centre de Congrès d'Angers pour découvrir ou redécouvrir le voyage à vélo sous toutes ses formes. Merci à Hervé Chéneau et Alexis Desjeux pour vos chroniques. Merci à vous, auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. Donc, c'était Les Voix de l'écho sur Radio G 101.5 FM en DAB+ ou sur radio-g.fr. Merci à l'association l'association Champ contre Champ pour la production de cette émission. Et retrouvez tout de suite Fabien Bertrand pour l'émission des métiers de l'ombre, qui a aujourd'hui comme invité Ludivine Odoni, qui est rédactrice technique. Si vous avez manqué le début de l'émission, le lien du replay est disponible sur le site de Radio G. On se retrouve le mercredi 18 février 2026 à midi 10 et en direct. Nous allons parler de rencontres avec un grand R. Et d'ici là, que ce soit à vélo ou autrement, prenez le temps de voyager tout en écoutant tout simplement Radio G. Et surtout, prenez soin de vous.
Radio G. 101.5 FM.
Merci beaucoup Yves. Et oui, bonjour et bienvenue dans votre émission bimensuelle Les Métiers de l'Ombre, qui met en lumière, un mercredi sur deux, ces héros de l'ombre, invisibles mais indispensables à notre quotidien. C'est à 13h, juste après les voix de l'écho sur Radio G 101.5 FM. Et n'oubliez pas, chaque voix mérite d'être entendue. Mais qui sont-ils vraiment ? Eh bien, ce sont ces personnes qui exercent des métiers discrets, parfois méconnus, mais essentiels à notre quotidien. Derrière chaque entreprise, chaque association, chaque grand projet, il y a ces petites mains qui font toute la différence. Alors je vous propose de rencontrer l'un de ces passionnés, de découvrir son métier, son parcours et ce qui le fait vibrer. Un instant pour lever le voile et donner la parole toutes les deux semaines à l'un de ces mystérieux individus au micro de Radio G.